Allez, c'est parti, let's go, c'est Plume et Pinceau, la seule émission qui vous parle de bande dessinée et qui est capable de réenregistrer des émissions qu'elle pensait déjà avoir enregistrées.
Voilà.
Je croyais qu'on avait déjà enregistré cette émission.
Et non, puisque nous sommes effectivement la 460e.
Eh ben, mais je croyais déjà l'avoir vue.
Ben ouais, alors moi je suis toujours resté très classique, vous savez, un bon vieux livre, un grand grimoire avec des feuilles.
Ah, sous certains régimes, vous auriez été un fonctionnaire exemplaire.
Zélé, et vous voyez, avec des... J'aime bien parce que la loi, c'est la loi, et ça, ne l'oublie pas. La photo du dirigeant aimé au fond du studio, voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est pour ça que, selon les chiffres officiels papier, nous sommes à la 460e émission.
Émission donc de bande dessinée avec des nouvelles, des chroniques et de la musique.
Yep.
C'est ça l'idée, c'est ça le concept, c'est Plume et Pinceau. Programmation à Roger.
Yep.
Yes. The Ice Wild, Wild, Wild Woman. Ça rock'n'roll grave, Roger.
Ouais. Et ça se tient bien, des petites jeunes. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir la banane qui repousse, c'est pour vous dire.
C'est une métaphore.
Alors, en parlant de banane qui repousse, ça n'a sans doute rien à voir. Ça n'a sans doute rien à voir, mais je suis profondément déçu. Parce que, alors que normalement, à partir de samedi 30 et dimanche 1er octobre, va se tenir quoi, mon bon Erwan? Alors,
le Japanime, là?
Le
Japanime, The Rain?
Ouais, vous en parlez de manière un peu très détachée. Comment qu'il s'appelle ce festival-là? Normalement, c'est vous, le département manga, normalement. Alors, tout à l'heure, je l'avais retrouvé. Concours de cosplay, voilà la Japan Manga Wave.
Ouais, c'est ça.
Bah voilà,
c'est le vrai nom, mais c'est une Japanime. Bah c'est bientôt là.
Ben oui, c'est ce week-end. C'est pour ça que j'en parle. Alors ça sera passé quand vous entendrez l'émission. Je sais bien.
Mais on a des problèmes temporels assez poussés, je trouve.
Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas déguisé alors.
Non, parce mais que... j'aime bien le manga, mais je suis pas dans le trip cosplay, Roger.
Alors, est-ce que vous y avez...
fantasmé sur ma personne, là, non, l'ami.
Est-ce que vous avez y été, est-ce que vous y avez été pour dénicher des perles mangeables? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des pleins de vendeurs, des vendistes, des vendiers de livres. Vous-même qui êtes quand même un peu adepte, hein, vous en critiquez régulièrement.
Oui. J'en chronique, je préfère.
Oui, ça peut être une critique positive.
Ouais, en fait, je sais pas, je crois que c'est quand même un peu plus pour les gros geeks ou les jeunes. Moi, je suis un amateur, enfin, je suis un lecteur en plein essor. Je connais pas encore tout. Je pense pas que je arriverai jusqu'à aller voir des trucs de cosplay, pour être franc.
Je serais bien vu avec une
Je vois bien. Je vois bien que ça vous émoustille, mais j'essaye de pas trop rentrer dans le jeu en vous disant, ah non, vous savez, moi, maintenant. On ne voit plus en soirée, Roger, surtout déguisé, quoi. C'est plus de mon âge, Roger.
Hein? C'est bien dommage. Quoique, deuxième nouvelle, elle aussi.
Je pense que ça va y avoir une foule très très jeune et abondante à ce truc-là, parce qu'il y a vraiment tout pour plaire. Hein. Il y a du jeu vidéo, il y a tout. Le livre est qu'une partie de tout l'univers qui est proposé. Il va y avoir de la K-pop, il va y avoir des tas de trucs. Tu vois, c'est vraiment presque, c'est une célébration de la culture Corée du Sud, Japon, quoi, au sens large. les habits, les divertissements. La BD occupe qu'un secteur. Un secteur. Mais ouais, ça peut sans doute très bien, mais c'est plus de mon âge.
Oui. Vous semblez tout gêné quand je vous parle de...
Non! Arrêtez de penser à moi déguisé. Bon, s'il vous plaît, passons à autre chose.
Eh ben, on va rester dans le domaine du manga. Drôle de nouvelle, parce que, en fait, les auteurs de manga, alors voilà comment ça fonctionne. C'est encore une fois, c'est pas moi le département manga. Je m'excuse auprès des auditrices et auditeurs. Si je dis des bêtises, il faudra s'en prendre à Erwan. En fait, comment ces gens-là, allez, admettons que vous soyez un auteur mi-connu. Vous voyez le genre.
Ouais.
En fait, le contrat, c'est simple. Il faut fournir entre 10 et 15 pages, je crois.
Oui, ils ont un taux de production qui doit être assez élevé. Mais du coup, ils travaillent avec des assistants.
Voilà, ils embauchent eux-mêmes des assistants. Alors, déjà, le chef, on va dire le mangaka en chef, lui, il a déjà du mal à survivre. Il est obligé de payer des assistants pour tenir la cadence. Ce qui n'est pas le cas, naturellement, d'auteurs comme celui de One Piece, dont vous allez sûrement nous donner le nom.
Non. non, mais je. Lui,
il démarre, j'ai des sommes colossales.
Il a créé quelque chose, quoi.
Voilà. Et on parlait justement de la précarité des auteurs de BD.
Oui, en fait, c'est marrant parce qu'ils ont des assistants et ça fonctionne un peu comme t'imagines, devaient fonctionner les ateliers de peinture à la Renaissance, parce que t'as le grand maître qui va faire vraiment les personnages, tu vois, les choses importantes. Et après, tout autour, le décor, c'est des petites mains. Qui recopie le style d'eux et qui complète la vignette, quoi. Et ça fonctionne en fait comme des ateliers de la Renaissance, tu sais, où De Vinci fait l'ébauche et après ces petits assistants.
Mais tout ce petit monde n'est pas énormément rémunéré.
Ah bah ça fait plein de bouches à nourrir sur le même pain.
Voilà, et c'est ce qu'on parlait de la semaine dernière, donc de la précarité des auteurs et autrices françaises, européennes et anglo-saxonnes. Et il se trouve que le gouvernement ne trouve pas mieux que d'inventer une taxe sur les revenus de ces susdits auteurs. Et cette taxe risque d'assassiner purement et simplement la création, parce que de ce fait, les auteurs qui eux-mêmes déjà tirent la langue ne pourraient plus payer leurs collaborateurs, etc., qui eux-mêmes disparaîtraient. Et et alors qu'il y a une grosse, comment dirais-je, mobilisation de part des autrices et auteurs japonais, le monde de l'anime aussi est touché par ce phénomène et s'inquiète de ses conséquences. Et l'auteur de l'article que j'ai lu s'étonne que, alors que le manga fait partie, et les animes font partie de ce qu'ils appellent maintenant le soft power, vous savez, pour coloniser et puis comment s'étendre sur la planète entière, ils se demandent en quoi comment la cohérence effectivement du gouvernement japonais.
Est-ce qu'ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or, en fait?
Pardon?
Est-ce qu'ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or?
Ouais.
Culturellement parlant.
En France, ça m'aurait pas surpris, ce genre de mesure. Mais de la part des Japonais, j'imaginais plus pragmatique.
Vous savez, la morale que j'en tire, c'est que tu sois américain, européen ou japonais, bref, partout où tu sois, être auteur de BD, tu gagnes pas grand.
Ouais. C'est pas pour vous casser l'ambiance, les enfants, mais peut-être vous faut bien mieux.
Il y a des têtes de pont, et puis après, derrière.
C'est une contrepétrie.
Ouais, sans doute. Ou une triste histoire, je ne sais pas. Interlude musicale.
Yep.
Moi j'ai pioché dans mes trucs un peu aussi sympa. Ça va vous rappeler quelque chose, j'espère.
Plus d'orgastron.
Non. Pirouette dans le temps pour retrouver les Black Clips et le morceau Katrina célébrant le terrible ouragan qui avait frappé la Louisiane, si je me rappelle bien. Hop là, pirouette dans le temps. Hop là. Eh ben tiens, on retourne. Nos lecteurs nous écrivent et Christophe de Luxembourg.
Un peu prétentieux, mais bon, on ne choisit pas son nom. Nous propose
d'attirer notre attention sur un album paru chez Dargo de Monsieur Pierre-Henri Gaumont. Ça s'appelle Slava. Et apparemment, que faut-il penser d'un luxembourgeois qui nous conseille de lire un livre sur la chute du bloc soviétique? Affirmation d'un capitalisme triomphant.
J'en sais rien, mais je n'en entends que du bien de cet ouvrage.
Ouais, ça a l'air vraiment bien. Alors, ça a été quand même un choc, hein, la chute du bloc soviétique. Poutine s'en est jamais remis, par exemple. Hein. Et ça a été surtout un choc parce que c'est la société soviétique s'est vraiment délitée, nous dit Christophe de Luxembourg. Chacun se débrouille pour survivre. C'est le temps des apparatchiks triomphants, de la corruption à tous les étages. Vraiment une société qui s'effondre. On va suivre deux personnages, deux maraudeurs, qui apparemment se livrent à une activité plus ou moins douteuse, mais complètement logique finalement quand on y réfléchit dans l'ambiance fin du monde qu'il y a. En fait, ils vont dans des grandes datchas riches qui ont été abandonnées pour essayer de choper les objets de valeur. Tu vois, les propriétaires ont dû se barrer à la chute du mur, passer à l'ouest, etc. Donc c'est un peu comme nous on a vu à Berlin, plein d'appartements vides. Les gens étaient partis en laissant des tas de choses. Et ils vont un peu à la pêche au trésor, en fait, si je comprends bien. Ils revendent ça après à des riches collectionneurs, etc. Et on va suivre ces deux personnages. Donc il y a Dimitri, un trafiquant sans scrupules, pour qui tout s'achète et tout se vend, même femmes et enfants, nous dit Christophe de Luxembourg. L'autre, c'est Slava, une espèce d'artiste romantique qui a renoncé à l'art et qui suit le premier. Apparemment, il y a une histoire de dette. Et on va donc suivre ces deux espèces de pieds nickelés qui sont dans cette ambiance déliquescente de la Russie qui annonce celle d'aujourd'hui en fait. Et Christophe nous dit et conclut ainsi, c'est super, presque aussi bien que vous.
Oh.
Alors, je pense qu'il faut s'intéresser à cette BD.
Ah mais je n'en entends que du bien.
Ouais, apparemment, ça sera une trilogie. Ouais. Il y a déjà deux tomes. Pierre-Henri Gaumont de chez Dargo. Merci à vous, Christophe de Luxembourg, de nous avoir écrit cette chronique. N'hésitez pas vous aussi, d'ailleurs, les gens qui nous écoutez. Il suffit de regarder tout en bas à chaque épisode du blog. Il y a le lien pour nous écrire. Et merci aux Green New de nous laisser utiliser leur boîte aux lettres. C'est bien. Quand vous ne coupez pas le courant, vous êtes utile des fois.
Il n'y a que 50% qui est inopérant techniquement. 50%, je tiens à le préciser.
Bon, c'était un peu le coup de pied de l'âne, je suis d'accord. Alors, je vous vois vous agiter, vous avez des papiers, il y a une grosse pile de livres et vous avez l'air impatient de me caler un truc là.
Quand vous y allez.
Non, mais quand vous gigotez comme ça, c'est que vous préparez un coup.
Ouais, mais j'ai jamais dit que j'allais vous caler un truc, quoi. Les auditeurs ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans le studio. Space Relic Hunters de messieurs Runeberg et Grun. Ah ah, tirouli, tiroula. Quelque chose qu'en fait vous auriez dû lire. Je sais pas pourquoi. C'est tout décalé cette émission-là. Je parle du manga, je parle de SF, alors que moi d'habitude c'est quand même assez gros nez crado. Je ne comprends pas ce qui se passe. En tout cas, on va faire comme ça aujourd'hui. Space Relics Hunters m'a quelque part, on veut plonger ce one shot paru aux éditions Daniel Maguen, m'a replongé dans mes jeunes années où j'avais encore des cheveux que j'espérais friser au moins jusqu'à ma mort. Et ce serait le spécial USA, je sais plus qui faisait ça. Je me demande, c'est pas Albin Michel qui publiait ça.
Je crois que c'est ça. Ouais, et puis ce qui nous a permis de découvrir, enfin moi, Sin City, des choses comme ça. Ouais. Et il y avait plein de SF. Enfin, apparemment, en regardant la couve et en apercevant quelques pages, ça me fait vraiment penser à cette science-fiction des années 80-90, très flashy.
Ouais.
Très flashy, avec des personnages. Ils se reconnaissent. La fille là avec ses couettes et son t-shirt un peu trop court, elle me fait penser vraiment à des personnages, à des archétypes féminins qu'on trouvait dans ce genre de BD.
Oui,
de bourgeon. Il me fait penser à du bourgeon, tu sais.
Elle s'appelle Xia.
Celle de l'espace, Xia. Voilà, c'est ça.
Xia.
Ouais.
Bah alors ça, on le doit à ce moment-là au dessin de Monsieur Grun, du coup.
Ouais. Mais l'autre, ça me dit quelque chose. C'est pas le mec d'Orbital ?
Tout à fait.
Ah, voilà.
Il l'avait fait, mais par contre, avec Monsieur Pelé, c'est ça ?
Oui, exact. Bravo, Roger. Vos fiches sont exactes, hyper exactes.
Mais c'est un scénariste, Monsieur Runeberg, qui est prolifique. Hein. Il est passé la science-fiction fantastique avec des chroniques également un ouvrage comme London Calling. Il a parlé de plein de choses, réalisé plein de séries, mais c'est aussi quand même, avant toute chose, aussi un passionné de SF. Donc là, on est dans la SF, c'est un one-shot.
Mais la SF, vraiment, en période âge d'or quand même, où on est vraiment sur des thèmes spatiaux, la découverte de nouveaux mondes, des questions métaphysiques qui sont glissées là-dedans. Ouais.
Et là, ça y va, la dérouille. Ça va vous plaire. Je vais vous passer le livre. Ça danse. Imaginez, il commande trois tordus avec un bonhomme, une espèce d'entité que je me prenais pour un robot, mais qui en fait va se révéler ne pas en être un. Et ces trois personnages sont à la recherche de
des artefacts.
Alors des artefacts, certes, mais en liaison avec la religion, on appelle ça des reliques. Mais oui, c'est marqué en gros Space Relic, Roger. La vieillesse est un de nos phrases. Et des reliques. Et les reliques, elles valent très cher depuis qu'un espèce de quatuor d'affreux a fait main basse sur l'Empire, se sert d'une espèce de légion. Et des affreux, vous voyez, légion un peu à la légion romaine.
Les Sardaukars.
Qui ont imposé leurs lois sur tout l'univers connu. Et qui ont surtout, pour imposer leur puissance, éliminé toutes les religions. Or, il se trouve que dans toutes les religions, effectivement, essayer d'éliminer une religion, c'est quasi impossible déjà à l'échelle de notre Terre.
Ouais.
C'est très difficile, ça a pu arriver, mais vous voyez bien quand même, il y a toujours des résistances, etc. Donc imaginez à l'échelle de la galaxie. Mais malheureusement, bien souvent, ou heureusement, j'en sais rien, suivant qu'on soit religieux ou pas, des reliques se perdent. Et ces reliques, elles sont cherchées par les derniers fidèles des religions, et ça vaut une blinde. Mmh. Et c'est un petit peu le taf, c'est d'ailleurs le taf de Xia et de Little Mercure, un espèce d'alien masqué. Qui ressemblent vraiment plus
à... Ils n'appartiennent pas à la super légion dont vous parlez, c'est
nope, ça ? Nope, nope. Par contre, ils vont rencontrer un légionnaire, en fait un bonhomme qui a adopté la même profession qu'eux, et qui lui est un légionnaire déserteur, parce que c'est bien joli d'aller guerroyer aux confins de l'Empire Galactique, mais parfois on a des doutes sur la profession, et on déserte.
On change de carrière.
Voilà. Et dans ce one-shot, on voit les tribulations de nos trois héros. Xia, qui est pilote. Alors, elle est un peu religieuse quand même, parce qu'elle est adepte d'une religion qui plairait à beaucoup de monde. Elle picole, en fait. Et plus elle est bourrée, plus elle conduit bien. C'est pour vous dire, mon père disait souvent la même chose jusqu'à ce que la police nous arrête. Et je ne suis pas convaincu par la comment pourrait-on dire la justesse du propos. En tout cas, dans la BD, ça marche et ça les sort de tas de situations, parce que des bestioles tordues, des vilains, ils vont en croiser quand même un paquet. Ça commence fort dès le début de l'histoire avec un plan où ils shippent une relique dans un bistrot où il y a un concert, avec une très bonne diversion de l'entité alien. Non, du dynamisme de la baston avec... Comme c'est bien, on est chez Daniel Maguen, des gros, gros albums, vous savez, avec des grosses planches, la baston, on la voit bien dans tous les petits détails, et pif, paf, pouf, ça ne rigole pas. C'est de la science-fiction comme il vous en plaira. Après tout, c'est vous le spécialiste.
C'est marrant, ça me fait penser à Burton et compagnie.
Mais c'est ça que je cherchais le nom. Ils avaient un espèce de vaisseau de l'espace qui ressemblait un peu au vaisseau que ont ces trois gaillards-là. Ils avaient un espèce de remorqueur de l'espace.
Oui, puis c'était toujours des histoires où ils tentaient un coup, une arnaque.
Ouais, c'est ça, de l'arnaque. Burton et Sid, Voilà, Burton et Sib, tout à fait. Ça m'a fait penser à ça. Alors, on en saura peut-être plus, puisqu'on devrait normalement rencontrer M. Runberg et Grün, ou au moins un des deux, lors du festival Kennebul, qui va bientôt se tiendre.
Oh là, spoiler alerte.
Ouais. Donc, du coup, je vais vous confier cette bande dessinée. Vous ne la refaites pas tomber comme je viens de le faire à l'instant.
Ça, c'est pas vu à la radio.
Ça, c'est peut-être entendu, par contre. Un petit mix.
Yes, une chanson pour Emily Ken.
I was your boyfriend when we were 15. It's the happiest that I've ever been. Even though we didn't understand how to do much more than just hold hands, there's so much about you I miss. The clumsy way we used to kiss. I wish I convinced you you'd made a mistake. If memory serves, we're still on a break. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. I'm still in love with Emily Kane. Every girl that I've seen since looks just like you when I squint. I know you said it's for the best. I still don't understand why you left. So much about you I miss. Every time I see a couple kiss, I hope this song finds you fame. I want school kids on buses singing your name. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. I'm still in love with Emily Kane. I don't even know where she lives. I've not seen her in 10 years. 9 months, 3 weeks, 4 days, 6 hours, 13 minutes, 5 seconds. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. All my friends think I'm insane. I'm still in love with Emily Kane. There's a beast in my soul that can't be tamed. I'm still in love with Emily Kane. I thought I'd never love again. I'm still in love with Emily Kane.
moment d'Art Brut, chanson dédicacée à Emily Kane. C'est à moi de chroniquer ?
Yes.
Yes, alors chronique personnelle, et puis je vais rester dans la science-fiction avec, avec Bomb X, qui paraît chez Bureau Comics, Comics Bureau, pardon. C'est donc en lien avec les éditions Glénat et aussi en partenariat avec Sci-Fi. Bomb X, la nouvelle production de Vincent Bruguéa. Décidément auteur très prolixe et dans des univers très variés. Johan Guillot, Brice Cossu et Renan Toulouat, il faut bien le dire parce que lui aussi il est grand je crois.
Oui, il y en a beaucoup, ils sont bien nourris.
Ils ont fait du Conan et tout. Ils sont très gentils.
Voilà.
ils viennent de sortir un premier album d'une série qui s'annonce plutôt fort intéressante. En tout cas, l'univers créé est vachement intéressant. Alors, on va suivre un personnage qui s'appelle Paul. Il est français, il est né en 1985. C'est très important en fait la date de naissance dans cette histoire. Il est astronaute, il fait partie de l'ISS et puis en fait sa vie a complètement basculé lorsque sa station s'est crashée. Et là, il a été pris dans une expérience qui, je dirais, dépasse les lois de la physique, parce que en fait il a été envoyé dans un autre univers, une espèce de terre alternative. Qu'on le rejoint par des orages temporels comme ça, et projeté dans cet autre univers, cette terre alternative, il va rencontrer d'autres humains, d'autres gens, beaucoup d'hommes, mais aussi quelques femmes, qui ont été piochés comme ça par des orages temporels qui ont frappé de manière complètement aléatoire. Ils ont été piochés à telle époque et dans tel lieu.
Mais donc, alors ils sont immortels dans ce nouveau lieu ?
Non, pas du tout. Ils peuvent tout à fait mourir. C'est juste qu'ils ont été transportés et tous regroupés au même endroit alors qu'ils sont piochés vraiment à des périodes très très différentes. Puisque en fait notre Paul va rencontrer un type qui vient tout droit du Moyen-Âge et qui se comporte encore comme un chevalier. Il va y avoir un personnage qui a été pris à telle année. Certains viennent dans tel endroit du monde et ils sont tous regroupés. Dans ce lieu. Et de temps en temps, il y a des signes avant-coureurs d'un orage temporel, donc ils se précipitent parce que quand la captation qui est faite, c'est pas que les personnages, c'est-à-dire ils sont vraiment pris parce qu'ils sont à un moment, à une espèce d'endroit, et c'est tout l'endroit qui est transporté. Donc il y a des choses aussi qui peuvent arriver par ces orages temporels qui peuvent être utiles, quoi. Rarement il y a des animaux et quand ils arrivent dans un triste état. Je vous laisse découvrir l'album. Et là on découvre l'univers, donc on découvre Paul, on découvre les règles de la société qui s'est mise en place, on découvre qu'il y a des tensions quand même sous-jacentes, qu'il y a des formes de jugements qui sont portés sur ceux qui viennent de telle partie ou de telle période. Tout devient, tu vois, un prétexte finalement à quelques tensions parce que il y a des périodes qu'ils ne s'aiment pas, il y a des coins qui ne s'aiment pas. Et on découvre tout cet univers et puis disons que à un moment, notamment grâce à Paul, le chevalier va pouvoir réaliser un de ses rêves, voler. Et alors quand tu prends un peu de hauteur, tu vois un peu plus loin parce que nos personnages ne s'aventurent pas trop loin. Le monde est un peu désertique, donc on n'essaye pas trop de se paumer. Et tu peux voir ce qu'il y a un peu plus loin et peut-être découvrir des choses. Et joli cliffhanger à la fin, j'en dis pas plus, mais c'est vachement bien. Au niveau science-fiction, ça aussi c'est hyper intéressant, quoi, et très très fort.
Ça me faisait penser au Monde du Fleuve, vous savez, une espèce de BD, de bouquin de SF en plusieurs tomes,
ouais.
Où les gens après leur mort revivent, vous savez, le long d'un fleuve,
alors je connais pas la série, mais ça m'étonne pas.
C'est John Brunner, je crois.
Le côté fleuve, ça renvoie au Styx et tout, ouais, c'est assez logique. C'est vraiment bien fait. Alors après, je dirais que graphiquement, c'est du Comics Bureau, hein, donc tu vois, Papa Vatine n'est jamais très très loin, petite touche manga aussi, c'est très dynamique, c'est très cinématographique, c'est super efficace. Mais vraiment, là, l'univers est vraiment super intéressant. Là, il y a une jolie pleine page d'un orage temporel, tu vois.
Ouais, ça secoue quand même.
Tu vois, là, apparemment, c'est un boost style de New York, années 30, que tu as, et tu vois, tout est valdingué. Il y a un bout de voiture qui arrive, un tramway, des bouts d'immeubles. Et donc tu peux retrouver des trucs, encore des chasseurs de reliques presque. Décidément, il y a une thématique sous-jacente dans cette émission.
Vous vous rappelez sans doute de Stalker, l'espèce de SF de l'Est bizarre prophétique, avec un espèce de vaisseau spatial alien qui se crache sur Terre en Russie. Et ben, y a toute une zone interdite autour de ce vaisseau. Et il y a des stalkers. Les stalkers, ils vont chercher des trucs. Vous l'avez lu, ça ?
Ouais.
C'est flippant un peu, parce que c'est traité d'une... de manière très originale.
Est-ce que vous avez des reliques et encore de la SF ?
Nope, j'ai plus de SF. Moi, ce sera de l'histoire, de la politique et de l'histoire.
Vous êtes ambitieux, vous voulez nous caser tout ça ?
Non, je ne vais pas caser tout ça.
Allez, faites un choix, là. Il faut
Il
faut...
C'est à moi, maintenant ?
Oui, bien sûr, ouais.
Oh, mais je suis persuadé que je l'avais fait déjà.
Attendez, je prépare la transition. Hein. Bombe X, Brugéas, Guyot, Cossu et Toulouat, c'est comme ça ?
Toulouat, moi, je dirais.
Comics Bureau, donc Glénat, première partie de Bombe X, Voyage dans le temps. Partenariat avec Sci-Fi, quand même.
Bien.
À vous de jouer. Allez. Attrape !
Je reviens dans un domaine que je connais un peu plus, la collection Patakès chez Delcourt.
Oh, facile.
Ouais, facile, mais il faut en parler aussi parce que...
Voilà, un canard qui fait de la politique, c'est tellement vous, en faisant des fucks.
Voilà,
c'est Roger, ça.
Charles, profession président, c'est pas Roger, c'est monsieur Marc Dubuisson et James, je vous ferai dire. James, vous savez, c'est le monsieur énorme. Et Patrice Larsenet en plus. Je vous ferai dire, c'est pas des gens qui rigolent. Les couleurs, c'est Patrice Arsenal et James, le scénario de monsieur Dubuisson et le dessin de James. Tu sais qu'il mesure 2,80 m de haut.
C'est vraiment de ce dessin. C'est vraiment de ce dessin français à la Trondheim. Qui est repris là, on a un personnage canard quoi.
Là, il a choisi le canard, c'est pas toujours le cas. Il peut faire dans l'animalier avec des tas d'autres bestioles. Je pense qu'il est à l'aise avec.
Il aime bien les osios quand même. Il aime bien les osios.
Là, pour Charles président, il se trouve qu'effectivement l'univers choisi était celui des oiseaux. Donc voilà, c'est-à-dire que tous les personnages ont des gueules de piaf, ainsi que Charles président. Et naturellement, Charles président, ce n'est pas sans nous rappeler le nôtre de président.
Hein. Bah oui, clin d'œil.
Ouais, alors les clins d'œil ne sont pas si évidents que ça. Ce qui est juste très amusant et puis un peu dérangeant aussi, pour les politiques sans doute à travers cet ouvrage-là, c'est surtout cette espèce de show business qui est mis bien en avant. On voit que finalement tout cela n'est que
de la com.
Ouais, que de la com. On voit un président qui virevolte, qui passe d'un problème, qui pourrit un problème pour en pourrir un autre, des conseillers pas toujours bien inspirés. On n'est pas toujours aidé quand on est président. Regardez, tenez le nôtre. Alors qu'il se rendait sur au milieu du terrain du match, tout le monde était là. Ouh, démission, hurle. Il arrive à son pupitre. Vous savez ce qui lui arrive à M. Macron ?
Il n'y a pas de papier.
Pas de papier, pas de discours. Non, mais vous y croyez à ça ? Moi, je dis, Audin a été facétieux ce jour-là. Mais vous imaginez ce grand moment de solitude, comme au milieu d'une foule qui ne conspue. Vous êtes sur un stade immense, tout petit, tout président que vous êtes, et vous n'avez pas de papier. C'est un peu ça, l'humour de Charles, ou comment rebondir quand on est dans des situations complètement abracadabrantesques, disait un autre de président qui est mort depuis. C'est très, très drôle. Et c'est vrai que avec M. Dubuisson, que j'ai chroniqué moult fois, qui travaille en solo, qui a produit d'ailleurs lui aussi des albums, aux éditions Dalcourt, Amour, Djihad et RTT, comment le président est une boîte coco, les philosophes que j'aime bien, etc. Donc énormément de choses. Également aux éditions Lapin, c'est d'ailleurs là que je l'avais découvert, avec AB Absurdo. Ça fait longtemps que je parle de ces petits personnages tout simples, vous savez, des petits ronds, des petits bâtons, mais hyper expressifs et d'un humour qui arrache. Monsieur James, lui, est bien plus connu puisque non seulement il a réalisé des tonnes de bouquins, notamment aux éditions Flux Glacial, mais en plus, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le directeur de la collection, Patakès. Et puis voilà. Charles, profession président, Marc Dubuisson et James, aux éditions Patakès. Moi, je dis que ça fait plaisir, en ces temps quand même où la contestation mollit, on n'a même plus le droit de se promener avec des casseroles en ville, vous avez vu ce que c'est. Ça fait quand même une petite dose de bien-être que finalement de se moquer de nos dirigeants. Et c'est une tradition bien française, monsieur. Et la France nous regarde. Charles, profession président, bravo les gars, il faut continuer, moi je dis. We'll be right back.
backwards bop. It's the backwards bop. You start to move when you do that beat. Before you know it, you're back 20 feet. It's the backwards bop. It's the backwards bop.
The Ragman, Backward Bop, Emma. Wow, voilà. C'est dur à dire ça.
Ouais.
Bah, c'était bien. Mais voilà. C'est vraiment connoté en ce moment, votre univers. Hein.
Un petit peu, mental. Ouais.
Ouais, ouais, je vois ça.
Vous avez quelque chose contre les choses américaines?
Non, pas du tout. Non, les cravates lacées, là, non, c'est chouette.
Parfaitement, monsieur. Est-ce que je vous ai critiqué, moi, parce que vous aviez encore plein de paillettes de la dernière Japan Anime Wave de ce week-end dernier? Vous arrivez là.
Méchant que vous êtes. Tiens, je vais te ramener au calme en te faisant peur. Ah, t'as pas osé la lire, celle-là.
Ah,
hein,
si, c'est celui que je vous confite.
Ah ouais, t'as pas osé la lire.
Non, bah déjà le titre, redoute.
Le cri.
Eh ben voilà, déjà, c'est
le
pas pour
cri.
Moi.
Le cri. C'est vrai que la couverture est plutôt réussie. Le cri, la Nicolas sorte. Beugley, ouais, c'est ça. Makio, on connaît aussi Makio.
Ah bah ouais.
Lui aussi, c'est un vieux de la vieille. Et Laval NJ, je sais pas ce que ça veut dire le NJ. C'est aux éditions Phileas, Le cri. La couverture est assez impressionnante parce que il y a vraiment une grosse référence à des trucs à la Wes Craven, ce genre de choses. On voit le personnage principal, hein, une femme quand même d'action, l'inspectrice Sarah Geringen. De toute façon, dès que vous sentez que c'est un peu trop suédois, vous me le refilez généralement.
Ah, j'ai du mal à lire les hauts barrés avec un trait oblique à chaque fois, ça me perturbe.
Alors, elle est dans un paysage bien évidemment gris-bleu, presque nocturne. Elle a un gros blouson avec une fourrure blanche qui rehausse son visage. Crac, elle est rousse, un regard d'acier, elle est inspectrice. Derrière elle, on voit une espèce de je sais pas, un truc lumineux. Une entité, voilà, qui pousse un cri. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'asile vraiment hyper flippant à l'arrière.
Et c'est pour ça que je vous
santé,
le confite.
Et des arbres qui n'ont pas vert du tout.
Nope.
Ils n'ont plus de feuillage du tout.
Nope.
Hein, l'inspectrice Sarah Geringen enquête, évidemment, sur la mort suspecte d'un patient d'un hôpital psychiatrique en Norvège.
Top.
Et là, Roger, déjà, il a dit non, non,
non. Non, mais la couverture, déjà, la couverture déjà.
Alors, la bizarrerie, évidemment, il faut qu'il y ait un truc un peu bizarre, quoi. C'est que le mort, la victime, elle a sur le front un 488, le chiffre 488 qui est gravé, et apparemment depuis très très longtemps. Et les conclusions des légistes sont sans appel, le type, l'homme est mort de peur, carrément.
Ça j'ai lu, hein. je fais le mariole comme ça, mais j'ai lu.
Ouais. Ouais, et je pense que là vous avez arrêté. Donc. Et
c'est plus... effectivement quand ils ont dit qu'il était mort de peur, que là Je me suis dit, Roger, c'est vraiment pas pour toi, n'insiste pas.
Évidemment, elle comprend que c'est pas un suicide, donc elle va se lancer sur les. Elle va essayer d'en savoir plus sur le directeur, sur le passé de cet institut, sur le patient lui-même, autour le. Qu'est-ce que c'est que ce 498 qu'il a sur le front. Ça va même l'amener à sortir de Norvège. Et c'est une enquête presque métaphysique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, le cri. C'est presque le cri primal, c'est le premier cri de peur qu'a poussé l'humanité. On va être lancé à une espèce de quête sur ce autour de ce truc-là. Et c'est vachement intelligent, c'est bien fait. Effectivement, le choix des couleurs est du genre à rebuter Roger parce qu'on sent que on n'est pas dans un univers gaudriol, paillettes, japanime. Pas du tout.
Alors, japanime, je vous les laisse. Moi, je vous dis, c'est plus un univers plus chaud, on va dire, quelques palmiers, quoi. Je sais pas, moi.
Ouais. Mais c'est vraiment un très bon one shot. Et c'est vrai que graphiquement, ils ont fait des parties pris. Vous vous dites que vous vous plaignez un peu des couleurs. Là, il y a des vrais parties pris et c'est torché, quoi. Ouais, c'est fait à l'impeinture. Non, vraiment vachement bien. Édition Félias, donc. Attaché de presse, Emmanuel Klein. Moi, je dis rien.
Faites pas le mariole avec Emmanuel Klein non plus.
Non, mais c'est pas que parce que Emmanuel Klein, on la respecte et on l'apprécie beaucoup, que je vous chronique vraiment, qu'on vous chronique ses albums. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Le scénario, donc, c'est Macchio. C'est d'après, si j'ai bien compris, un roman de Monsieur Beugler. Et c'est Laval NJ. Alors, je n'ai pas compris le NJ, je suis désolé. Qui est au dessin et donc, je crois, aussi aux couleurs. Voilà.
Eh bien, c'est très bien. Est-ce qu'il nous reste du temps ou pas de temps ?
Eh bien, vous pouvez une dernière chronique, Roger.
Voilà, bon, j'étais dans les collections Patakès, et tant pis, j'y reste, alors on va dire...
briquet.
Alors, écoutez, moi, c'est pas de ma faute si, effectivement, il demeure un espèce de petit village, un espèce d'îlot d'humour qui résiste encore, toujours et encore à l'envahisseur Tristus.
Si c'est pour une quête.
Voilà, à l'envahisseur Tristus. Regardez chez n'importe quel fournisseur de bonnes bandes dessinées, regardez la taille du rayon rigolo, on va vous envoyer chez les juniors en général. Si vous dites que vous faites
dans la boutique dont on tira le nom. Ouais. Vous avez eu du mal à trouver du rigolo, j'ai cru voir la dernière fois.
Ouais.
C'était trop pour vous.
Ouais. Et les livres que je n'ose pas acheter directement, que je dis que c'est pour
encore
offrir.
Encore plus bien cachés.
Là, c'est encore pire parce qu'il faut demander au serveur, c'est horrible. Au libraire. Avec le livre, avec la dame avec des gros poumons.
Et la toute petite côte de maille.
Allez. 3-0 par le scénariste de dialogue, c'est-à-dire le duo dont je vous ai déjà deux fois parlé, messieurs Caribou et Jocelyn Dupart.
Ah oui, parce que c'est drôle, là, vraiment. Oui, vous jouez sur du velours, Roger.
Voilà.
C'est toujours rigolo. Alors, quel univers ils ont choisi, là ? C'est
pas
Napoléon ?
Alors, le premier album que je chroniquais, c'était Salade César. Nous avons eu après un univers qui vous plaît plus, celui de Waterloo.
Ouais, voilà. On redécouvre soit Napoléon, précédemment César, disons, au pouvoir. Et tout ça s'est présenté sous un angle très très particulier et fort peu historique, je crois.
Voilà, c'est-à-dire que...
Il y a de la dérision.
Il y a un peu de dérision. L'auteur a des a priori que vous ne partagez pas. Par exemple, le fait de présenter Napoléon comme un fou furieux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont les auteurs, Monsieur Caribou est scénariste, le dessinateur, Monsieur Jocelyn Dupart-Meur, sont les maîtres de leurs œuvres. Mmh. Et là, ils massacrent allègrement, à travers cet album-là, 3-0, l'univers de l'Iliade. Alors, on aura peut-être l'Odyssée, on a surtout l'Iliade, en fait. Hein, c'est-à-dire la prise de Troie, le combat pour la prise de Troie, le cheval.
Ah, 3-0, du coup.
Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y a le cheval de Troie qui figure sur la couverture, toujours dans la collection Patrick.
Et ils ont un truc aussi avec les poneys et les chevaux.
Il faudra leur demander.
Repense aux couvertures. César, je crois qu'il est sur un petit poney et Napoléon pareil.
Il y a toujours Napoléon, un cheval. Napoléon, il est sur une espèce de dragon en fait. Mais vous avez raison. Il y a toujours un cheval. Là, c'est le cheval de Troie, en l'occurrence.
Ouais.
Et voilà. Et nos amis dynamitent joyeusement l'histoire de l'Iliade. Alors, on sent quand même qu'il n'y a pas énormément de moyens. Hein. La montée de Ménélas, avec ses compagnons pour aller casser la gueule à Troie. Eh ben, ils sont trois, dont deux sur. Ouais, on sent que
production petit budget.
Ouais, c'est une petite maison, quoi. Donc, ils n'ont pas pu embaucher beaucoup de soldats. Il y en a un peu. Hein. Je suis suis pas juste. Hein. Il y a au moins 3 soldats troyens sur les remparts, certains avec des flèches. Il y a aussi parfois un peu de morts. Mais c'est vrai qu'on sent, on sent la petite production.
De toute façon, tout se joue dans les dialogues.
Voilà, tout se joue dans les dialogues, on l'aura compris. Et est-ce que vous le saviez, vous, qu'en fait, le rapt d'Hélène, c'était pour rien? Parce qu'en fait, d'après nos auteurs qui se sont penchés sur les sources les plus pointues, l'amour d'Hélène pour Paris est purement fraternel. Autrement dit, même pas question. Et c'est ce qu'on découvre à travers cet album et qui fout bien les boules à Paris et à Hector. Il y a pas mal des protagonistes de cette histoire qui disent « Putain, on a plein de morts pour une histoire de putain d'humour, d'amour fraternel au final, quoi. » Et voilà, quoi. Il dynamite. Et on voit, bah, on découvre les différents personnages. J'aime bien le personnage d'Achille avec son petit ami Patrocle. ils sont grecs, quoi. Ah mal. Ah voilà, je vous vois rire. Vous aimez pas les Grecs ou quoi?
Ah moi je Alix, j'en ai beaucoup lu.
Voilà. Et ben voilà, on a ça avec Patrocle et Ulysse dans Achille. Donc vous imaginez la détresse d'Achille lorsque Patrocle meurt.
Ah oui.
Ça rigole pas. Donc il va se venger sur Hector. La vengeance sur Hector est assez terrible. Il va le découper en toutes petites rondelles qui encore une fois pour des raisons techniques n'ont pas pu nous être montrées parce que par manque de moyens, mais on l'imagine bien quand même. Naturellement, la ville de Troie va finir par tomber.
C'est le vent de l'histoire.
Hein. Ah bah c'est le fameux de l'histoire, comment les Troyens vont périr, la ville va brûler, et l'histoire se termine avec effectivement Ulysse qui s'en va avec toute une tripotée de nouveaux compagnons, et comme c'est un peu les mêmes Branque qui étaient avec lui pour la prise de Troie, se fait dire à Ulysse que, eh bien, finalement, il risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour rentrer chez lui à Ithaque. Voilà, voilà. Ça s'appelle donc 3-0, c'est à mourir de rire.
J'ai cru que vous me faisiez un AVC, mon Roger. Quel
mais
final
non, mais non.
En tout cas, je vous le dis, moi, et on a le temps d'un dernier petit morceau de musique, alors je vous le dédicace. Je vous crois, Roger, I trust you.
We'll be right back.
chers auditeurs, si tu veux retrouver toute la programmation musicale et aussi retrouver nos chroniques, il faut que tu ailles sur notre blog. Tu y trouveras aussi, et c'est important, et exploite-le, un lien qui te permet de nous envoyer des chroniques d'albums que tu as lus et que nous, bah, nous diffuserons à l'antenne en prêtant notre voix. Et si c'est nous qui gagnons un briquet, et ben on le garde. Voilà. Mais on te remercie de collaborer.
Voilà. Vous m'avez fait
le
peur.
Le geste.
Vous m'avez fait peur. Je savais que vous alliez offrir quelque chose. Je le sentais pas.
Non, on gardera tout. Je reconnais, okay. On regardera tout.
On gardera tout. Les casquettes, je commence à en avoir beaucoup.
Si vous voulez retrouver Roger, ça sera à la Japanim Web de Rennes. Il sera simple à reconnaître, c'est Tortue Géniale.
Voilà.
Pensez à Tortue Géniale et vous trouverez Roger.
Voilà.
Surtout si en plus il a une chemise à carreaux et une cravate lacée. Vous êtes sûr que c'est lui.
Et des bottes pointues.
C'était Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, la 460e. À la semaine prochaine, tant qu'on a le droit, tant qu'on est là. Mais j'ai rajouté un morceau. J'ai rajouté un morceau parce que il s'était planté. Alors on avait du temps, donc j'ai rajouté un morceau. Mais chut, ne lui dites pas. ça m'a permis de vous offrir Last Time, Every Time, Forever de Graham Chatton. Bonne lecture, à la semaine prochaine.